Voilà, bonsoir. Nous commençons ce soir par réécouter les béatitudes et ensuite le Notre Père dans deux versions différentes, celle de la Tobe et celle qui est utilisée à Haïti. Haïti, une petite île, une demi-île des Antilles accolées à Saint-Domingue, dont la devise est l'union fait la force. Avant nous, indépendant 1804, Haïti. Voilà, mais accueillons la parole. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils auront la terre en partage. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux ceux qui font œuvre de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, que l'on vous persécute et que l'on dit faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi en effet qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Vous donc priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, fais connaître à tous qui tu es. Fais venir ton règne. Fais se réaliser ta volonté sur la terre à l'image du ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous-mêmes nous avons pardonné à ceux qui avaient des torts envers nous. Et ne nous conduis pas dans la tentation, mais délivre-nous du tentateur. La version de Haïti n'est pas en créole haïtien, c'est une transposition en français, parce que le créole vous échapperait peut-être. Le début du Notre Père en haïtien, c'est « Papa nous qui n'en ciel là ». Je traduis. « Papa de nous qui est dans le ciel, que nous respections ton nom, que nous reconnaissions que c'est toi qui es roi, que ta volonté soit faite comme dans le ciel, sur la terre. Le pain dont nous avons besoin chaque jour, donne-le-nous aujourd'hui. Pardonne ce que nous t'avons fait, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont fait quelque chose. Ne nous abandonne pas quand le piège est là, mais délivre-nous de ce qui est mal. Amen. Voilà, nous abordons une nouvelle étape, enfin, la dernière étape. Pourquoi parle-t-on du Nouveau Testament ? Qu'est-ce qui est nouveau ? La nouveauté du Nouveau Testament, c'est ce que nous allons célébrer bientôt, c'est Dieu parmi nous. Dieu, chair fragile, dans un monde qui est fait de chair de péché. Il y aura parmi nous cette chair fragile de l'innocent, quelqu'un qui est intact, qui n'a pas été touché par le péché, par le mal, par la volonté de vouloir du mal à quelqu'un. Et ce caractère intact est partageable, puisqu'il est partagé par Marie. Alors, on peut voir une différence déjà d'attitude de l'Ancien au Nouveau Testament. Dans les psaumes, écrits de sagesse, se trouve la phrase du psalmiste « Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté » qui est un élan très généreux en face de Dieu. Mais ce que dit Marie, c'est « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Il s'agit d'accueillir l'innocent, l'intact, et de le laisser prendre chair, c'est-à-dire ma chair que je lui donne, de sorte que lui et moi, nous ne fassions qu'une seule chair. Lui se donne, je me donne. Pourquoi un long chemin pour arriver au Nouveau Testament? Pourquoi un si long chemin, diraient certains? Je donne ici mon opinion, c'est pour qu'il n'y ait pas de méprise qui rendrait l'amour impossible, un vrai amour en réponse. Dieu devient tellement proche de l'homme, tellement miséricordieux, qu'il y a un risque de se prendre pour Dieu, et donc de ne plus recevoir la participation à la nature divine. Notre chair est appelée à être divinisée, mais c'est un don à recevoir. Et il y a un autre risque qui est de croire que le mal n'est rien de grave à cause de la miséricorde. Je crois que je vous ai dit à propos de la Genèse, où Jean-Marie Henault l'a dit, pour saint Augustin, fait partie de la faute d'Adam la présomption. Il a cru qu'il obtiendrait facilement le pardon. C'est méconnaître l'humilité et l'amour de Dieu, et cette méconnaissance n'est pas sans conséquence pour les hommes. Le péché fait toujours mal. L'homme est un être relationnel, il est fils ou fille, c'est-à-dire qu'il existe dans un flux. Il se reçoit d'une source et il est lui-même source en coulant. Donc il est fait pour d'autres. Et cela risque de s'oublier qu'il faut avoir une source en amont de soi. La générosité est toujours prête à couler vers les autres, mais se recevoir d'une source. La proximité de Dieu était un risque et Dieu l'a pallié d'une certaine manière en préparant sa venue pour qu'il n'y ait pas de méprise sur ce qu'est la miséricorde. Mais à vrai dire, le chemin était-il vraiment si long? Pour d'autres, il est court, si court. Le père Jean-Marie Henault dit que nous ne sommes peut-être qu'au tout début de la vie de l'Église, après 2000 ans. C'est intéressant d'avoir une autre perspective quand même sur l'avenir. Voilà. Alors, l'alliance était déjà scellée, c'est-à-dire que Dieu s'est déjà donné, bien sûr, nous l'avons vu, pendant tout le chemin, et la promesse accompagnait et orientait le chemin. Dieu était déjà proche, en espérance, comme il le reste pour nous. Malgré notre connaissance de Jésus, nous attendons sa venue dans la gloire, c'est-à-dire la glorification de l'humanité. Alors, quel est le changement pour la morale avec la venue du Verbe dans la chair? Mais en s'apportant lui-même, Jésus apporte de nouvelles exigences, nous allons les voir, qu'il rend possible. Nouvelles exigences. Nous allons voir comment la loi devient exigeante sur l'intérieur de l'homme et exigence du pardon, ce qui fait dire que la loi nouvelle est plus lourde que la loi ancienne. Mais ce sont des exigences qu'il rend possible parce que il nous donne le Père comme Père. Il nous donne l'Esprit, il nous donne son amitié. Et la fraternité qui naît de ces dons, qui est l'Église, fait que ces exigences sont praticables. Et même, il faut dire que globalement, la loi qui semblait plus lourde est globalement plus légère. C'est matériellement vrai, en tout cas, quand on compare les préceptes de l'Ancien Testament et ce que l'Église en a gardé. Donc la morale de l'Alliance, la morale des prophètes et la morale des sages ne devient pas purement et simplement ancienne, comme si elle était dépassée. Mais l'ancien devient nouveau. Et il le devient par une altération. Bon, s'il n'y a pas d'altération, évidemment, il n'y a pas de nouveauté non plus. Mais surtout par une présence nouvelle. Le nouveau ne remplace donc pas l'ancien. C'est vraiment l'ancien qui devient nouveau en accueillant ce qu'il annonçait, c'est-à-dire par mode de remplissage. On pourrait dire comme le ventre d'une épouse qui est comblé par l'enfant qui grandit en elle. L'avantage de cette image, c'est de montrer que l'ancien qui se laisse remplir de nouveauté ne possède pas cette nouveauté. Le mot « accomplissement » en hébreu, que je vais développer plus loin, signifie « être comblé, mais sans cesser d'avoir besoin de recevoir celui qui peut combler. Voilà. » Donc nous allons entrer maintenant dans l'expression de cette morale nouvelle apportée par Jésus que saint Matthieu a rassemblé dans ce qui s'appelle le Sermon sur la montagne, Sermo Domini, dit saint Augustin, l'enseignement du Seigneur. Le mot sermon a pris pour nous des allures de sermonner, mais c'est un enseignement, l'enseignement du Seigneur. Alors, la conviction de base pour moi est celle-ci, l'enseignement moral du Sermon sur la montagne consiste en ceci. Le rapport à la loi demande une conversion. Et nous lisons le texte pour reconnaître quelle est cette conversion. Il y a deux mots-clés qui indiquent le nouveau rapport à la loi. Je viens de mentionner, c'est « accomplir » et « surabonder ». Matthieu 5, 17, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Matthieu 5, 20, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens. Surpasser. Le premier verbe, donc accomplir, en grec pléroun, le verbe plérou, signifie remplir. Ce qui indique bien qu'il y avait dans la loi seule un manque, une attente. Le deuxième, c'est le mot grec « périssein » qui veut dire « dépasser, être en surplus, en surabondance, abonder en ». Le creux ou l'attente de l'ancienne justice est donc non seulement rempli, mais il déborde. Voilà, ça c'est pour l'ensemble de ce sermon, donc les chapitres 5 à 7 de Matthieu. Donc prenons maintenant le chapitre 5, auquel j'ai donné le sous-titre sur vos feuilles de route, la nouvelle justice ou la nouvelle fidélité. Les tout premiers versets placent Jésus sur la montagne. La montagne, c'est là où Moïse avait reçu la loi de l'Alliance. Jésus s'assied. Il est en position de juge et d'enseignant. Le sermon du Seigneur est un enseignement, une Torah, du verbe yara, enseigner, Mais comme pour les prophètes, y compris Moïse, c'est d'abord la vie du Christ qui est un enseignement. Matthieu facilite la tâche de ceux qui ont à transmettre la doctrine qui résulte de cette vie en la présentant sous la forme d'un discours structuré. Mais il s'exposerait au risque de réduire l'évangile à un enseignement moral s'il n'avait écrit 23 autres chapitres autour de ceux-ci. Mais il rend le service de prévenir une autre dérive, c'est de réduire l'évangile à la rencontre du Christ, c'est-à-dire à un vécu intense et bienfaisant, mais qui serait sans doctrine morale précise et commune à tous les disciples. Voilà le service que nous rend Matthieu. Au verset 1, il est dit « Ses disciples s'approchèrent de lui ». Cette phrase n'a l'air de rien, mais elle est capitale. Les béatitudes, comme les exigences du nouveau rapport à la loi, sont incompréhensibles sans cette proximité de Jésus. Ils s'approchèrent de lui. En même temps, cette phrase indique bien que les scribes et les pharisiens, qui seront visés par Jésus, ne sont pas les autres, puisque c'est à ses disciples qu'il le dit, comme si nous pouvions juger les autres. Donc, le scribe et le pharisien sont le scribe et le pharisien qui sont en nous. Dès que nous nous attachons à la parole de Dieu écrite, mettant notre honneur à en être les plus fidèles sectateurs. C'est pour les bons chrétiens. Voilà, en tête du discours, je dis en tête comme il y avait en tête de la création, et comme au début de l'évangile de Jean, il est mis aussi au commencement, en tête. Qu'est-ce qui est en tête de l'enseignement moral de Jésus? C'est bienheureux. Bienheureux. La première phrase de Jésus concerne le bonheur. Heureux les pauvres par l'esprit. Donc, en grec, ptochoi to pneumati, par l'esprit, peut-être avec une majuscule. Pas les pauvres tout court, mais ceux dont l'intériorité est touchée par le manque. Ceux qui savent qu'ils ont à recevoir. Les pauvres de cœur. Ptokos en grec veut dire mendiant. Cela n'exclut donc pas une activité, la demande. Ce qui est à garder en mémoire, parce qu'il y a une autre traduction qui n'est pas mal non plus, c'est « heureux les blottis ». Ceux qui se blottissent contre Dieu. Voilà, « blotti » dit plus que le rapport à la béatitude, mais « pauvre ou mendiant » dit le rapport aux besoins. Nous avions vu que la crainte demandée dans la première alliance était rendue par la foi et l'espérance dans la nouvelle. Et c'est bien de cela qu'il s'agit ici. La béatitude vient de l'exercice de ces deux vertus théologales, foi et espérance. On aurait pu traduire cette attitude, donc du pauvre de cœur, par d'autres mots. Humilité, petitesse confiante, ouverture, disponibilité, pour ceux qui aiment les jésuites, indifférence ignatienne. Mais en disant précisément « heureux les pauvres », Jésus rejoint directement la détresse ou l'attente où il vient mettre son esprit par sa parole même. Les 9 premières phrases de Jésus parlent du bonheur. La morale de l'Alliance Nouvelle est une morale du bonheur et pas, comme pour les Kantiens, une morale du bien à faire, une morale de l'exigence du bien. Une morale du bonheur. Les récompenses associées aux béatitudes sont tantôt au présent, donc dans la première et la huitième, le royaume des cieux est à eux, tantôt au futur, ils obtiendront la terre promise, ils seront rassasiés, etc. La nouvelle justice s'inscrit dans cette tension entre le présent et un bonheur à venir. Mais le bonheur n'est pas que futur. Quand nous écoutons le Christ, le bonheur est déjà là et il se promet pour l'avenir. Alors les vertus et les attitudes décrites dans les béatitudes, donc l'humilité, la douceur, la sensibilité jusqu'aux larmes, ceux qui pleurent, le désir ardent de la justice, la miséricorde, la simplicité du cœur ou pureté du cœur, la pacification, ces vertus sont, comme le dit le cardinal Danneels, des vertus douces. Il importe de voir qu'elles sont cependant articulées aux vertus fortes. La justice est mentionnée deux fois. La douceur, donc la douceur, j'ai déjà dit, c'est la non-violence, suppose le contrôle de soi et donc la tempérance. Pousser cette douceur jusqu'à accepter d'être persécuté, et cela alors qu'on fait un effort pour promouvoir la justice, suppose le courage ou la force. Et bien articuler les vertus douces et les vertus fortes suppose la prudence ou le discernement. Donc on voit bien comment les béatitudes ne sont pas une consolation pour les mous. C'est un appel vigoureux du Seigneur. Et pour vivre les béatitudes qui sont des vertus vraiment de douceur et des vertus douces, tout à fait, il faut néanmoins recevoir l'Esprit Saint et ce qu'il donne, la force, le courage, la justice elle-même, la tempérance. Alors, on dit qu'on sera appelé fils de Dieu, qu'on verra Dieu, qu'on possède le royaume des cieux. Ces expressions indiquent suffisamment que les attitudes louées par Jésus sont des attitudes théologales. Donc, théologale, c'est ce qui vise Dieu, en dépendance de Dieu. Ce point apparaîtra encore plus clairement à la fin du chapitre. Les béatitudes ne sont pas une charte du païen heureux. La récompense associée à chaque béatitude est pour saint Augustin toujours la même, c'est le ciel. Il écrit ça dans son commentaire du sermon du Seigneur. Mais, dit-il, elle prend des noms divers selon la différence des degrés. Alors je signale ici, je n'ai pas le temps de le développer dans ce cours-ci, mais que saint Augustin reconnaît dans les sept premières béatitudes comme des étapes dans la progression du disciple de Jésus. Et il leur associe d'ailleurs les sept dons du Saint-Esprit. Donc à chaque béatitude, il associe un don du Saint-Esprit. Voilà. D'autre part, il a fait un commentaire où il associe chacune des sept béatitudes aux sept demandes du Notre Père. Ce sont de beaux développements, mais nous n'avons pas le temps ici de les faire. Après les béatitudes, avant tout commentaire de la loi, le Christ déclare que nous avons à être sel et à être lumière. Il déclare donc que la présence des disciples accueillant de lui leur béatitude donnera de la saveur à la vie des hommes, de tous les hommes. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Quant à la lumière, elle est ce qui sort tout de l'indistinction de la nuit. Elle révèle les formes et les couleurs. Elle manifeste, sans la créer, la beauté des réalités. Vous êtes le sel, vous êtes la lumière. Jésus rappelle en même temps l'urgence des œuvres. La béatitude du disciple se reçoit dans les actes qu'on pose, fussent-ils des actes intérieurs. Les œuvres sont le moyen de rayonner. Il ne s'agit pas d'activisme, un acte de patience est aussi une œuvre. Mais le but de la loi, dès la première alliance, c'est de rendre possible à l'homme de contribuer à la gloire de Dieu. C'est la première demande du Notre Père, que ton nom soit sanctifié, c'est que vraiment nous puissions glorifier qui tu es. Que votre lumière brille aux yeux des hommes pour qu'en voyant vos œuvres bonnes, ils rendent gloire à votre Père qui est aux cieux. J'insiste là-dessus parce que parfois nous devons reprendre conscience du prix qu'ont nos actes. Rendre gloire à Dieu. Mais le début de l'enseignement du Seigneur rappelle que l'être, ce que nous sommes, et la béatitude, l'accueil du bonheur, précèdent l'agir. C'est au niveau de l'être qu'il faut situer le désir, si présent dans les béatitudes derrière des mots tels que pauvre, larmes, faim et soif, cœur pur. Donc, au niveau de l'être, être pauvre, humble, disponible, ouvert. Alors, le nouveau rapport à la loi. Jésus dit donc, je ne suis pas venu abroger la loi, mais accomplir. Accomplir, mener à sa plénitude. Alors, Jésus dit que ceux qui méprisent les petits commandements seront regardés comme petits dans le royaume des cieux. L'attitude de Jésus par rapport aux petits commandements manifeste qu'il ne méprise pas les perfectionnistes, mais qu'il leur demande d'être sages. Il y a une hiérarchie dans les commandements. Alors, Jésus commente trois commandements du Décalogue. Donc, on voit bien que Matthieu situe Jésus dans la suite de Moïse. Et il montre comment il y a une nouvelle manière de lire et de comprendre ce que Moïse a donné et de découvrir au fond ce que Dieu a voulu donner en donnant le Décalogue à Moïse. Jésus reprend l'interdiction du meurtre, donc en 5:21. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commettra un meurtre en répondra au tribunal. Et moi, je vous le dis, quiconque se met en colère contre son frère en répondra au tribunal. Celui qui dira à son frère, ici dans la Tobe, imbécile, sera justiciable du Sanhédrin. Donc on passe de la justice de paix à la correctionnelle. Et celui qui dira fou sera passible de la géhenne de feu. Donc on va aux assises. Jésus reprend l'interdiction du meurtre et conduit à reconnaître que le désir d'éliminer l'autre commence dans le cœur. Et c'est à ce niveau d'intériorité qu'il demande de se convertir. Reconnaissons qu'une parole qui détruit l'autre, à ses propres yeux ou aux yeux des autres, est déjà un assassinat. Et une première fois ici, Jésus parle de réconciliation. Quand tu vas te présenter ton offrande à l'autel, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire tant que tu es en chemin avec lui. C'est-à-dire, profite du temps qui t'est donné. Profite de ce que tu n'es pas encore mort pour chercher à te réconcilier. C'est une étape dans la vie de quelqu'un quand il se rend compte qu'il va mourir et que tout ce qu'il n'aura pas pardonné avant de mourir, ce serait un peu foutu, hein. C'est plus urgent de pardonner que de gagner sa fin de mois. Jésus dit que c'est plus urgent qu'une rencontre avec Dieu par l'offrande d'un sacrifice. C'est quand même fort. Comme les prophètes, Jésus donne une priorité à la relation aux frères sur la liturgie. Il n'abroge pas la liturgie puisqu'il dit, viens alors, après t'être réconcilié, présenter ton offrande. Et notez qu'il ne dit pas, va. Viens. Mais pour que l'offrande liturgique soit vraie, il refuse l'illusion qu'on pourrait être bien avec Dieu par le seul contact direct avec lui. 5:27, Jésus reprend le deuxième commandement sur l'adultère. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Et moi je vous dis, quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà dans son cœur commis l'adultère avec elle. Jésus amène à voir la graine de l'adultère dans le cœur de l'homme. Et si l'homme le repère au niveau de son regard ou d'un de ses gestes, qu'il souhaite plutôt être privé de la vue ou de la main. Car suivre cette pente entraînerait l'homme tout entier sur le chemin de la géhenne, donc là où on brûle les ordures. Notons qu'ici, Jésus ne donne pas de justification du mariage. Il le fera au chapitre 19, en le référant à la présence du Créateur dans le lien entre l'homme et la femme. Ce qui apparaît bien plutôt ici, c'est comment la présence de Jésus permet à l'homme de remonter à la racine de ses comportements et d'en ressentir un effroi, l'évocation du jugement de la géhenne. Quand nous percevons à quel point le mal est vraiment au-dedans de nous, ce n'est pas les femmes qui sont provocantes, je dis ça pour les hommes, hein. C'est en nous que le désir captatif des femmes. Quoi. On peut être effrayé. Mais cet effroi, comme la crainte, renvoie au Sauveur. Nous reviendrons plus loin sur ce qui apparaît comme une abrogation d'un point de la loi de Moïse, l'exigence du certificat de répudiation. Jésus a-t-il altéré ou aboli cette loi? Suspense. Bien. Enfin, troisième commandement, Jésus reprend l'interdiction du faux serment. Donc en 5.33, vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne te parjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. Et moi je vous dis de ne pas jurer du tout. » Quand vous parlez, dites oui ou non. Tout le reste vient du malin. Donc Jésus reprend l'interdiction du faux serment, mais quelle plongée! Pour lui, tous les témoins qu'on peut invoquer, le ciel, la terre, Jérusalem, parlent de Dieu. Et même les cheveux de ma tête qui reçoivent de lui leur couleur. Puisque toute parole d'engagement engage Dieu, qu'il n'y ait pas de demi-oui ou de demi-non. Louvoyer serait, à la manière du tentateur, faire de Dieu un Dieu qui n'est qu'à moitié fidèle à ses promesses. De nouveau, effroi devant une telle exigence. Si nous ne crions pas vers lui pour lui demander cette grâce d'être fidèle à nos engagements, comment pourrions-nous y prétendre? Il vaut la peine de revenir un instant sur le fait que le premier commandement repris est l'interdit du meurtre. Donc je fais ici un petit excursus philosophique en m'appuyant sur Emmanuel Levinas, donc le philosophe français d'origine lituanienne, né en 1905 et mort en 1995. Il fait remarquer ceci, « Contrairement à la chasse, où la fin visée par l'acte de tuer un vivant est de l'ordre de l'utilité, dans la chasse, l'assassinat, le fait de vouloir éliminer une personne, vise précisément ce qui n'est pas de ce monde, ce qui transcende ce monde, où tout peut servir à quelque chose. » Donc pour comprendre ce propos de Lévinas, il faut revenir à sa phénoménologie du visage. Un visage n'est pas simplement un nez, une bouche, des yeux. Il est tout cela, bien sûr, donc je cite Lévinas. Mais il est ce qui me vise. Dans le regard apparaît ce plus qui empêche de réduire l'autre à son apparence. Bien sûr, dans la parole d'autrui, que je ne peux inventer à sa place, se manifeste avec plus de force cette transcendance, cette insaisissabilité de l'autre. Et le visage est pour Lévinas manifestation de l'infini, non pas parce que l'autre serait infiniment grand, mais parce que sans cesse, dans son regard, il déborde son apparence. Ce qui se passe quand nous nous regardons droit dans les yeux. Ça arrive parfois dans le tram, comme ça, on est tout surpris d'un contact avec quoi? Avec ce qui dépasse nécessairement l'apparence. Ce qui est là, celui qui est là ou celle qui est là, ce n'est pas un objet du monde, c'est autre chose. Et c'est en permanence. C'est pour ça que Lévinas parle d'infini. Et le meurtre vise précisément à éliminer cela. C'est l'autre en tant qu'il transcende le monde. Derrière la volonté du meurtre se cache une méchanceté qui n'existe pas dans la nature animale. Paradoxalement, l'interdit du meurtre, hein, le fait qu'on entende cette injonction de ne pas tuer, ne surgit pas de la puissance d'autrui. Autrui n'est que trop livré à la lame de mon couteau ou à la balle de mon revolver. L'interdit vient, donc toujours selon Lévinas, de sa détresse même, le visage nu, sans défense. Et pour Lévinas, la manifestation de la nudité de l'homme tout entier, de sa dépendance à l'égard de ses semblables. L'autre a besoin de moi. Vouloir que l'autre vive est le premier acte d'humanité. Et Jésus vient nous humaniser, en même temps qu'il nous divinise, en venant nous guérir de toutes ses volontés de supprimer certains personnages de notre vie. Me souviens d'un ami jésuite comme ça. Quand il avait marre de moi ou d'un autre de la communauté, il disait, je vais quand même demander au scénariste d'enlever quelques personnages. C'était dit avec humour, mais c'est quand même ça, il y a des gens dont nous voudrions qu'ils n'existent pas. Et Jésus nous dévoile que notre cœur est pour une part un cimetière, avec les rancunes qui l'habitent. Et la loi du talion ne peut pas tenir en présence du Christ. Nous allons y venir. Mais c'est une révélation à demander, hein, que le Seigneur nous montre notre cimetière intérieur. Quels sont les noms que je peux lire sur les pierres tombales de mon cimetière intérieur? Qui est-ce que je dois ressusciter avec la force du pardon et de l'esprit? Alors, le nouveau rapport à la loi. Donc j'ai dit, il y a accomplir. Mais le nouveau rapport est en ceci que entre les actes prohibés déjà par Moïse et le cœur se trouve le Christ. Donc le Christ ne nous met pas directement en contact avec une interdiction de tuer, de commettre l'adultère, de se parjurer, qui s'adresserait à notre cœur en montrant que la racine de ces actes est dans notre cœur, mais il y a lui. Dans la première fidélité à l'alliance, il suffisait de s'abstenir de certains actes. Le meurtre commis extérieurement, l'adultère commis extérieurement, le faux serment. Quand le Christ survient dans une vie, et je dis ça aussi pour Moïse, Jérémie, les païens au cœur ouvert, bon, a fortiori dans nos vies, le Christ rend attentif à la dégradation par le mal des mouvements du cœur de l'homme. Il nous rend attentifs à cela avant qu'elle n'affecte les regards et les gestes. Donc c'est l'histoire de couper son œil, sa main ou son pied. C'est bien un désir de posséder ou d'éliminer qui habite ton œil ou ta main, qui domine ta parole quand tu traites l'autre de racaille ou de fou. L'homme est ainsi mis dans une situation nouvelle, perturbante, et devant des exigences nouvelles. Mais il ne s'agit pas, de la part du Christ, d'une volonté d'instaurer un œil super contrôleur, non seulement sur nos comportements extérieurs, ça on avait déjà le triangle pour l'Ancien Testament, mais maintenant sur les comportements intérieurs aussi. Nous ne transposons pas donc, une fausse compréhension de Dieu dans l'Ancien Testament sur le Nouveau. Il s'agit d'une autre perfection que le Christ veut pour ceux qui l'écoutent. J'emploie le mot perfection parce qu'il viendra au dernier verset du chapitre 5. Ce qui importe pour l'instant, c'est de voir que l'exigence nouvelle est liée à la présence du Christ. Et sans lui, elle deviendrait, bien que puisée dans le Nouveau Testament, une loi qui tue, comme dit saint Thomas d'Aquin. Donc si on fait des exigences nouvelles, des exigences sur le type de l'ancienne, pour lesquelles on doit payer et être sanctionné si on les viole, alors notre situation est pire que ceux qui avaient reçu la loi de Moïse. Non, Jésus, bien sûr, révèle, mais il visite et révèle. Et ce qu'il révèle, c'est ce qu'il vient guérir et ce qu'il vient convertir. Mais cette présence se fait sur un fond éthique. Le choix pour le ciel et le rejet de ce qui va à la géhenne. Ce choix se joue dans le présent et dans mes relations aux autres. Mais déjà, l'annonce du ciel, hein, ils posséderont, le royaume des cieux est à eux, transforme l'arrière-plan sur lequel se déroule ce jugement. Il ne s'agit donc pas que d'éthique avec Jésus. Alors, un certain désarroi, que j'ai déjà exprimé trois fois, devant l'extension et la profondeur des exigences du Christ, n'est pas anormal. Qui ne se sentirait pauvre, peut-être jusqu'aux larmes, devant un tel enseignement ? Mais c'est à chaque fois l'occasion de revenir à la première béatitude. C'est pour ça qu'elle est en tête. Heureux les pauvres. Elle doit accompagner la découverte de notre misère. Alors, on peut s'étonner que Jésus ne dit rien sur les commandements contre le vol et contre la convoitise. Il en manque deux, là, dans la deuxième table. Alors, est-ce que la béatitude des pauvres y a répondu ? Est-ce que l'enseignement sur l'œil, comme désir, et sur la main, qui consiste à prendre, y correspondait ? En tout cas, on voit que pour Jésus, c'est la relation aux personnes qui compte. Vouloir qu'elles vivent, respecter l'alliance où elles sont l'élu, et si je les respecte, si je veux les respecter, elles ont droit à la vérité de ma part. Autrement dit, Jésus insiste sur l'interdiction du meurtre, de l'adultère, du faux serment, pour qu'on ne croie pas s'en sortir en changeant simplement notre relation au bien. Car, c'est peut-être pas le danger pour vous, mais pour les jeunes religieux et les futurs prêtres, les jeunes religieuses, il y a une ascèse qui est du mauvais fakirisme. Pouvoir se passer de presque tout, n'est pas encore, n'est pas du tout, respecter les autres. Cela peut même être un refus des autres et de leur amour. Alors, après les trois commandements du décalogue que Jésus a commandé, il reprend la loi du talion. Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ». Et moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. À qui veut te mener devant le juge pour prendre ta tunique, laisse aussi ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. Il s'agit ici d'une nouveauté, et elle est le point de rupture d'une vie. Je crois qu'on pourrait dire que c'est ici que se joue le choix de suivre Jésus, et de renoncer à tout le reste, c'est-à-dire à tout ce qu'il ne nous donne pas lui-même. Mais il s'agit de l'amour des ennemis, l'amour des offenseurs, ce qui est en même temps l'accès à l'universalité de l'amour. C'est ce double aspect, amour des ennemis et accès à l'universalité de l'amour, qui a entraîné une rupture entre le Christ et les conservateurs de la loi. Rupture qui, historiquement, se donne à voir dans la rupture entre le judaïsme et le christianisme. Mais c'est le signe qu'une rupture doit se produire, ou se reproduire dans tel domaine particulier de notre vie, dans telle relation ou telle appartenance, pour suivre le Christ qui appelle à la liberté de l'amour. La liberté de Dieu. Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde et j'ai pitié de qui j'ai pitié. Ça a l'air arbitraire et saint Paul dans l'Épître aux Romains doit expliquer cette phrase, mais c'est la liberté de Dieu. Il a pitié de quelqu'un parce que lui veut avoir pitié, c'est ça la liberté. et pas parce que l'autre le mérite. Retenons ça avec nos ennemis. Nous ne pardonnons pas parce qu'ils le méritent. La liberté de l'amour. L'amour n'est pas limité par des rancunes héréditaires, celles que nous a transmises ou dont nous a imbibé notre culture. L'amour n'est pas limité par les rancunes personnelles. Saint Paul dira dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, que le Christ est mort pour faire tomber le mur de la haine qui séparait les Juifs et les païens. Un mur séparait les Juifs et les païens, parce que les Juifs étaient appelés à donner témoignage au Dieu unique qui refuse toutes les idoles, et toutes les nations étaient idolâtriques autour d'eux. Et le Christ est mort pour que ce qui a été donné au peuple juif soit désormais donné à tous, à tous les hommes. Il a fait tomber le mur de la haine. Mais j'ai une définition de la haine à vous donner. La haine, c'est refuser que l'autre puisse m'apporter quelque chose. Je répète. La haine, c'est refuser que l'autre puisse m'apporter quelque chose. Et c'est ainsi que nous traitons nos ennemis et ceux contre qui nous avons de la rancune. Nous n'attendons plus leur amour. Eh bien, Dieu ne fait jamais ça, de cesser d'attendre notre amour. La rupture n'était pas et n'est pas entre le Christ et la loi, hein, ce que les pharisiens et les scribes ont pu croire, mais entre le Christ qui fait aboutir le projet de Dieu par la loi, donc faire entrer tous les hommes dans l'amour qui est dû par l'homme, donc entre ce projet de Dieu et ce que l'Évangile appelle la tradition des anciens. On pourrait donc dire que ce sont des relations qui deviennent toujours plus fraternelles entre les hommes, donc toujours plus fraternelles, et pour tous les hommes, sans exclusion. En disant cela, je ne crois pas que le Christ condamne une tradition particulière, comme s'il avait condamné la religion juive. Ce serait retomber dans le mécanisme qu'il est précisément venu enrayer, le mécanisme de l'exclusion par lequel nous nous croyons meilleurs que les autres et donc par lequel nous mettons les autres dans notre tête sur le chemin de l'enfer, tandis que nous nous croyons sur celui du paradis au moment même où nous excluons d'autres hommes du salut. C'est terrible de penser qu'on est les bons. Et pourtant, comme notre éducation nous a fait chercher à être bien, un type bien quand même, ou une fille bien, quoi. Nous cherchons toujours ça. Et nous cherchons surtout à le croire, parce que l'être, c'est quand même difficile. Mais se croire bien. Et nous mettons dans nos bonnes intentions notre valeur, quoi. Nous voulons tous, hein, sincèrement quand même, que la misère disparaisse du monde. Hein. Mais est-ce que nous ne nous contentons pas de voir que nous le voulons pour dire que nous sommes assez bons? Donc voilà. Alors, Jésus donc n'est pas venu condamner une culture. Jésus parle à ses disciples, à ceux qui se sont approchés de lui. Et il leur révèle qu'à un moment, les exigences de l'amour nous mettront devant le choix, ou bien le suivre lui, notamment en acceptant de pardonner. Ce peut être aussi en posant un geste audacieux d'engagement pour la justice, ou en prenant audacieusement un chemin nouveau de charité, en tout cas en avançant avec lui vers l'inconnu. Je pense ici à Jean Vanier quand il a fondé l'Arche. Mettre la personne handicapée au centre et croire que c'est plus important que tout autre engagement politique. Quelle audace, quoi. Ce n'est possible qu'en suivant le Christ. Mais à un moment, l'amour nous met devant ce choix. Ou bien suivre Jésus, ou bien refuser ce pas audacieux en s'attachant à la tradition des anciens. Ce n'est pas telle tradition que Jésus récuse, ce serait manquer de respect au commandement qui dit d'honorer mes pères et mères, mais ce qui peut honorer mes pères et mères, c'est que ma vie témoigne de cette charité et de cette passion pour la justice qui est celle de Dieu, qui ne supporte pas de voir mépriser le petit, le faible, l'innocent, le malade, l'étranger, le pécheur. Mais le danger est celui-ci. Dans ce que m'ont transmis mes pères et mères, mes ancêtres, ceux qui ont fait mon pays, ceux qui ont fait ce qui est devenu l'ordre religieux auquel j'appartiens, ou tel autre mouvement auquel j'appartiens, même ceux qui m'ont transmis ma religion, fût-elle chrétienne. Dans tout cela, il y a des éléments auxquels je m'identifie peut-être à tort et qui m'empêchent de répondre au projet de Dieu. Jésus, en proposant de le suivre sur une voie nouvelle, pleine d'inconnus, mais avec lui, propose de devenir plus libre, moins dépendant de telle ou telle tradition pour aimer. Ça ne se fait pas sans mal, comme vous le devinez, et comme le pape François le devine. La nouveauté qui fait parler d'une nouvelle alliance, un nouveau testament, c'est donc la présence de Jésus qui invite à ce dépassement pour aimer davantage. Au niveau de l'enseignement, de la doctrine de vie par laquelle le Christ attire à lui sur ce chemin, cette nouveauté prend en termes de loi ou de précepte un double visage. Donc elle s'exprimera mieux encore dans la nouvelle prière, hein, le Notre Père. Mais en termes de commandement, les deux commandements essentiels sont sur votre feuille de route là. Ne pas résister aux méchants, aimez vos ennemis. Voilà, le dépassement de l'ancien précepte œil pour œil, dent pour dent, le dépassement du commandement du Lévitique, tu aimeras ton prochain. Ton prochain, c'est pas tout homme. C'est depuis Jésus que le prochain, c'est tout homme. Et donc les nouvelles formulations qui sont incompréhensibles sans l'esprit de Jésus sont ne pas résister aux méchants et aimer vos ennemis. Quand je dis incompréhensible sans l'esprit de Jésus, c'était une objection à laquelle Augustin devait répondre quand ses amis lui ont demandé d'écrire le livre sur la cité de Dieu. C'est que les Romains disaient, mais si on aime ses ennemis, on ne va plus pouvoir faire la guerre. Il y a une question qui est posée quand même, hein. Alors, comme je dis, je ne crois pas que Jésus soit contre la légitime défense, mais il faut comprendre. Mais donc, on peut voir comme deux étapes dans ces deux commandements. La première, c'est de renoncer à la violence, hein, ne pas résister aux méchants, ne pas entrer dans la violence que lui m'adresse, par laquelle il me fait souffrir. Donc, première chose, renoncer à la violence. Deuxième étape, c'est donner à celui qui ne le mérite pas. Puisque aimer ses ennemis, voilà, c'est aimer quelqu'un qui, entre guillemets, ne mérite pas mon amour. La première est une transformation intérieure, renoncer à la violence. La seconde est l'expression, dans le regard ou dans les gestes, de cette transformation. Faire appel à l'œil et à la main. Voilà, par Jésus, Dieu invite donc à faire comme lui, à ne pas résister aux méchants. Dieu ne massacre pas les pécheurs. À ne pas opposer aux méchants une autre méchanceté. Et ainsi, Dieu invite, tout en apprenant à s'aimer soi-même comme pécheur, à être prêt à aimer toute personne. Vous voyez que la première transformation, c'est vis-à-vis de nous-mêmes, hein. Constater, le Seigneur nous montre, notre cœur est plein de violence, de rancune, de méchanceté. Sainte Thérèse d'Avila disait ça, hein, qu'elle était méchante. Je ne sais pas comment ses sœurs l'ont compris. Mais quand on regarde son cœur, on peut comprendre. Et donc, le premier méchant à aimer, c'est nous-mêmes. Mais il ne s'agit pas que d'un changement intérieur. Les frontières d'Israël, les frontières pluriséculaires ne peuvent plus tenir. Jésus ne les détruit pas, il les porte à leur véritable dimension. C'est le monde entier qui entre dans la promesse, qui est convié à l'alliance. Et l'Église comme corps est le signe de cet accomplissement. Parce que toutes les nations, toutes les langues sont représentées, ou si elles ne le sont pas, sont appelées à l'être, dans l'Église. L'Église a surtout à en être non seulement le signe, mais le signe efficace, en se convertissant pour recevoir du Christ, ou par le Christ, l'amour qui lui fait encore attendre de l'amour, même de ses ennemis. L'Église doit attendre l'amour de ses ennemis. C'est ça une Église en sortie, hein, dont parle le pape François tout le temps. Aimer ceux qui nous aiment déjà, ceux dont nous n'avons pas peur, pour les chrétiens les chrétiens, pour les Belges, pour les Français les Français, pour ceux qui aiment prier les autres qui aiment prier, etc. Ce n'est pas encore manifesté que le Christ est venu. Ce n'est pas montré que nous n'avons qu'un seul Père, qui à tous donne le pouvoir aimer. La fin du chapitre 5 montre d'où vient la confiance du Christ en nous pour nous présenter ses exigences exorbitantes et à la fois les seules vraiment humaines, puisqu'elles aiment le pécheur, puisqu'elles aiment l'homme réel. Cette source, c'est que le Père se donne à chacun de nous. D'où cette formulation à la fois fidèle à la première alliance et profondément renouvelée par la tendresse manifestée en Jésus. Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Alors, je suis dans un institut où on aime l'analyse des textes bibliques à partir des structures. Des structures en chandelier, des concentries, des parallélismes, etc. Mais moi, en regardant le texte de Matthieu, j'ai trouvé une structure en étoile. Dans l'ordre des mots grecs, c'est « vous serez » donc « vous » dit Jésus « parfait ». Comme le Père. De vous, le céleste, parfait, voilà, structure. Ça montre très bien qu'il y a une source, mais vous serez donc comme le Père, le céleste. Et la promesse, n'est-ce pas? Quand Dieu descend, hein, de nous rendre semblables à lui, la divinisation de l'homme. Et l'insistance que c'est bien nous qui participerons à cette capacité qu'a Dieu d'aimer les pécheurs, de les aimer jusqu'au bout. Alors, nous pouvons reprendre le mouvement qui habite le rapport du Christ à la loi. Donc, comme conclusion, les exigences exprimées par l'interdiction du meurtre, l'interdiction de l'adultère et l'interdiction du faux serment ont été reconduites à leur source dans le cœur de l'homme, et dès lors elles ont été étendues à la parole méprisante, au regard non chaste et à la vérité de toute parole. C'est à partir de là qu'on comprend que les concessions qui étaient faites au manque de développement du cœur humain, les limites mises aux exigences de la Torah dans la Torah ou dans la tradition, disparaissent dès lors que le Christ est venu remplir et élargir le cœur humain. Donc cela ne signifie pas qu'il ne faudra plus tolérer ces étroitesses dans un monde qui ne se laisse que lentement gagner à l'amour du Christ. Donc les concessions, je vais les reprendre après, avec le Christ ne sont plus un droit. Et c'est pourquoi on assiste en Matthieu à la suppression du droit au divorce moyennant remise d'un certificat. On assiste à la suppression du droit à la vengeance, œil pour œil, dent pour dent. Et la suppression du droit à restreindre son amour et sa solidarité à ses proches. Tu aimeras ton prochain, donc c'est les gens de ton peuple. Au contraire, priez pour ceux qui vous persécutent. Donc, les préceptes du certificat de répudiation, du talion et de l'amour du seul prochain sont donc dépassés. Ils ne sont pas obsolètes. Ils restent le chemin pour conduire un homme à la justice. Et si vous vous contentez de ne pas commettre d'assassinat, ni d'adultère, ni de parjure, c'est déjà un bon début. Mais attendez quand même que le Christ vienne parfaire ce petit pas que vous aurez fait. Voilà. Merci beaucoup.